cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Sabag.
Bonjour Marc.
Alors Jérôme Sabag, de passage à Paris, puisque alors, c'est toujours un peu l'étiquette, c'est, vous êtes maintenant depuis bientôt 15 ans je crois, non, à l'expat.
15 ans à New York, 17 ans aux États-Unis.
D'accord, depuis 15 ans à New York. Et vous avez donc publié pour votre label Beat Jazz, pour lequel vous avez déjà publié précédemment des albums, un album qui est sorti à la rentrée, en trio cette fois, un trio inédit avec Daniel Humer et Ben Mander, un album qui s'appelle I Will Follow You. 15 ans à New York, ça passe à une vitesse supersonique. Est-ce qu'on a l'impression qu'on vient d'arriver? On se sent entre deux pays, deux continents. Comment vous faites des allers-retours régulièrement? Comment ça se passe?
Bah, je vis vraiment là-bas. En même temps, je suis amené à faire des allers-retours assez souvent. Parce que je joue ici régulièrement, j'ai ma famille ici. J'organise au moins une ou deux tournées par an avec des groupes américains. Et parfois, je viens aussi jouer avec des musiciens français. 15 ans à New York, ça passe très vite. En même temps, je ne peux pas honnêtement dire que j'ai l'impression de juste arriver, mais il y a quelques années, je pense que ça aurait encore été exact. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'avoir un peu fait mon trou là-bas, d'avoir mes habitudes, d'avoir un réseau de musiciens que je connais bien, d'être bien intégré dans la scène musicale, jazz au sens large là-bas. Mais c'est vrai qu'à la fois, les choses passent très vite et à la fois, les choses prennent du temps pour s'implanter.
Comment vous avez vu justement ces 15 années évoluer? J'allais dire d'un côté par rapport à l'idée que vous faisiez, vous, de la scène musicale jazz à New York, la façon même comment elle a évolué en 15 ans, avec tout ce qui se passe depuis 15 ans, pour apparaître, je sais pas, que ce soit la crise du disque ou autre, et peut-être même vous, avec le regard que vous aviez un peu extérieur, même si vous vous sentez maintenant plus, un peu plus new-yorkais, on va dire, qu'à l'époque. Comment vous avez vu ces 15 années passées sur l'aspect musical new-yorkais jazz?
Bah, c'est sûr que les 15 dernières années ont été des années au cours desquelles il y a eu beaucoup de transformations dans l'industrie musicale. Le passage au numérique s'est accéléré. Donc c'est vrai qu'on a ressenti ça. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand je commençais, je suis arrivé à la fin d'une ère où, aux États-Unis, il y avait encore des producteurs de disques qui produisaient des disques de jazz, etc. Il y avait encore des majors qui produisaient des disques.
Et même des magasins de disques, comme The Tower.
Il y avait des magasins de disques.
Ou le Virgin Megastore.
Ouais, par exemple, The Tower n'existe plus, Virgin n'existe plus.
C'est assez incroyable.
Ce qui est assez incroyable. Donc, moi, je suis arrivé à la fin de cette ère-là. Et il faut voir qu'aux États-Unis, ils ont aussi un peu plus d'avance en France sur la disparition des magasins de disques. Et le fait qu'il y a de moins en moins... il y a moins en moins de producteurs et de labels qui font du jazz. Donc c'est vrai que je vois ça de première, je suis au premier rang de ça. Il y a de plus en plus de gens qui font des disques eux-mêmes, il y a beaucoup plus de gens qui font de l'autoproduction, qui font des disques uniquement sur le web, etc. Ouais. Donc l'industrie est en train de se transformer. Bon, ça c'est sur le plan industrie musicale. Sur le plan musique, en 15 ans, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai surtout l'impression, en ce qui me concerne, de rencontrer de plus en plus de musiciens et d'être de plus en plus, de mieux en mieux implanté. Sur la scène en général. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ça met du temps pour rencontrer des gens, ça met du temps pour s'implanter. Et là, c'est vrai que je me sens plus, pour répondre aussi à votre question de tout à l'heure, je me sens plus new-yorkais que français maintenant. Mais ça a pris un certain temps.
Là, au niveau justement, par rapport à cette crise du disque, ces labels, certains qui baissent le rideau, après d'autres qui éventuellement sont relayés au numérique. La musique vivante là-bas, les concerts, comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil ces 15 ans, vous avez vu une évolution? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que au niveau des nombres de clubs, tout ça, comment la scène également évolue au niveau du live?
Bah, c'est difficile, mais ça l'a toujours été. Donc là, pour le coup, je vois pas une évolution particulière au cours des 15 dernières années. Il y a des endroits qui ferment, il y a des endroits qui ouvrent. Donc les endroits qui ferment sont globalement remplacés par d'autres. Je dirais pas que ça a forcément changé énormément. Et il y a énormément de concerts. Il y a énormément de lieux. Alors après, ce ne sont pas toujours des lieux dans lesquels il est facile de jouer. Et ce ne sont pas toujours des lieux dans lesquels on joue dans de bonnes conditions. Donc après, il y a des choix artistiques à faire. Tiens, tel lieu, je vais le faire pour telle raison, et tel lieu, je ne vais pas le faire, etc. Mais il y a énormément de concerts, il y a une activité musicale, de musique vivante, de musique live, qui est très solide.
Pour revenir sur cet album, I Will Follow You, donc un album sans contrebasse,
Oui.
déjà, un album avec, j'allais dire, une guitare. On sait que vous entretenez une relation particulière avec cet instrument. Peut-être que je pense on en parlera, parce que c'est vrai que c'est un instrument qui a souvent été présent.
Oui, et particulièrement avec Ben Mondor,
Voilà,
puisque
j'ai
c'est le troisième
rajouté
disque
en plus avec Ben
qu'on
Mondor.
fait ensemble.
Donc comment est né ce projet? Est-ce que c'était l'idée de travailler avec ces deux-là précisément? Comment
C'était
s'est
l'idée de
montée cette
travailler avec ces
histoire?
deux-là précisément. Serge, j'ai vraiment écrit la musique avec en tête Ben et Daniel. Et en fait, j'avais envie de travailler avec Daniel. Et il s'est trouvé qu'on a fait un concert ensemble un an avant l'enregistrement du disque à Paris. Et ça s'est trouvé un petit peu comme ça. Je l'ai rencontré par hasard. Je savais qu'il avait apprécié mes disques. Moi, j'avais apprécié ses disques récents, notamment celui qui s'appelle Faux Contact, avec Tony Malabi et Joachim Kuhn. Et du coup, on avait évoqué la possibilité de collaborer ensemble de manière vague. Et après, bah, je l'ai appelé pour faire un concert à Paris. Et il se trouvait que Joe Martin, le contrebassiste de mon quartet avec lequel j'ai enregistré deux disques, était à Paris aussi, pile à la même époque. Donc on a fait un concert en trio, Daniel, Joe Martin et moi. Ça s'est très bien passé. Et ça m'a donné l'idée de faire un enregistrement avec Daniel, mais ça m'a aussi donné l'idée d'essayer de placer cet enregistrement dans un contexte plus libre. C'est-à-dire qu'au concert, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui avaient marché mieux que d'autres, et j'ai aussi pensé que peut-être nous mettre dans un contexte plus libre avec moins de pulsations rythmiques, j'ai pensé que ça nous placerait sur un terrain plus propice à ce qui se passe des choses dans le moment et à faire une musique dont je sentais instinctivement qu'elle serait probablement mieux à l'arrivée. Du coup, c'est un peu aussi à la réécoute de ce concert que j'ai pensé que ce serait mieux avec une guitare, parce qu'une guitare, il y a une palette sonore plus vaste qu'une contrebasse. Et aussi une contrebasse, qui dit contrebasse dit quand même tentation de pulsation rythmique. Or là, je préférais avoir un rythme souple, c'est-à-dire qu'on puisse jouer du time si on en a envie, mais qu'en même temps, on ne se sente pas obligé de jouer du time. Donc avoir une pulsation rythmique régulière et précise. L'idée c'était d'avoir un cadre assez flottant qui nous permette de nous écouter le plus possible et qui nous dicte rien.
Vos deux complices ont adhéré tout de suite à cette idée-là, ce concept. Il y a eu de l'échange. Comment ça s'est passé?
Bah en fait, j'ai proposé à Ben et à Daniel séparément. Enfin les deux connaissaient un peu le travail de chacun de l'autre, mais pas forcément de manière extrêmement précise ou extrêmement actuelle. Et ils ont tous les deux accepté. Et c'est vrai que j'ai proposé d'emblée cette formule-là sans contrebasse. Et ils ont accepté tous les deux.
Comment se passe justement un album comme ça avec d'un côté un complice, ouais, un musicien avec qui vous avez déjà développé une complicité depuis un certain temps, vous connaissez très bien, et quelqu'un comme Daniel Humbert avec la personnalité tant, j'allais dire, humaine que musicale, sorte de géant quand même.
Ouais, bah
Donc
oui.
entre deux, donc d'un côté quelqu'un qu'on connaît très bien, avec lequel vraiment on a des pas des automatismes parce que le mot est peut-être un peu péjoratif, mais une complicité vraiment intense, et quelqu'un à côté avec qui justement on est excité, attiré par
Ouais.
développer un dialogue, mais en même temps avec le côté un peu légendaire,
Ouais.
charismatique, etc.
Je me suis servi de la complicité avec Ben pour justement mettre
Vous
en
l'avez
place une
attaqué à deux.
musique. L'idée, c'était d'avoir des morceaux avec Ben sur lesquels nous deux on soit très au point. Et en fait, on avait une tournée en quartet juste avant l'enregistrement du disque. Du coup, on a joué les morceaux du disque en quartet. Et c'est vrai qu'on a une complicité depuis longtemps, on se connaît bien. Et l'idée, c'était de profiter de ça pour avoir un noyau dur, Ben et moi. Et laisser Daniel faire ce que lui voulait faire autour de ça et réagir de manière instantanée à ce qui se passait entre nous trois. Donc musicalement, c'est comme ça que je voyais les choses. Après, Daniel a été formidable. Il a été très impliqué à l'enregistrement et ça a été très agréable de travailler avec lui de bout en bout. À l'enregistrement, j'ai fait exprès de pas faire de répétition. Comme Ben et moi, on connaissait bien la musique et que Daniel, il y avait en fait pas grand-chose qu'il ait besoin de savoir avant. C'est-à-dire, c'était plus réagir dans le moment. Et puis de toute façon, il a tout compris à une vitesse très grande. Donc, il suffisait qu'on joue un thème une fois, il entendait ce qui se passait et tout de suite il entendait des propositions que lui pouvait faire. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'à chaque fois il faisait des propositions différentes. Du coup, on n'avait pas une manière de faire un thème. On avait, par exemple, si on refaisait des prises, à chaque fois c'était différent. Et il y avait clairement une volonté de sa part, de la nôtre aussi, mais particulièrement de sa part, de faire les choses de manière différente à chaque fois et d'essayer de provoquer des choses nouvelles dans l'instant. Je pense qu'aussi, nous trois, on avait tous la conscience de vouloir vraiment improviser dans le moment, de vouloir accepter ce qui se passait et d'essayer de trouver des choses nouvelles et des interactions entre nous. C'était ça l'intérêt de cette formule. Et je pense que tout le monde le voyait et tout le monde s'efforçait d'être le plus présent possible et le plus ouvert possible.
Il y avait une volonté quoi, de capter une sorte de fraîcheur instantanée, de ne pas te faire 75 000 prises.
Et d'ailleurs, on n'a pas fait 75 000 prises et on a fait beaucoup d'improvisations libres. Donc à chaque fois, on se plaçait globalement sur un terrain différent. Et les morceaux que j'avais écrits, il y en avait 6. On les a aussi enregistrés plusieurs fois, mais en gros, les versions étaient très différentes. Et c'était des morceaux que j'avais écrits particulièrement avec cette instrumentation en tête. Et non seulement cette instrumentation, mais ces personnes-là en tête, Ben et Daniel. Et globalement, il y avait des thèmes assez courts généralement. Et des fois des rendez-vous, mais c'était une musique très ouverte. Donc on jouait le thème, après c'était tout ouvert, et après il y avait peut-être quelque chose qu'on faisait à la fin pour terminer. Mais tout ce qui se passait entre était de toute façon complètement ouvert.
Rétrospectivement, quand vous avez écouté l'album, ou vous l'écoutez peut-être encore, qu'est-ce qu'à titre personnel sur vous, sur votre jeu, ce disque a apporté, je veux dire, l'avant et l'après par rapport à ce disque précis ?
Bah, je pense que ce disque est une pierre de plus dans le sens d'essayer de se laisser aller dans le moment, essayer d'avoir confiance en ce qu'on fait, et essayer d'accepter le moment pour ce qu'il est. C'est-à-dire de ne pas se dire je vais essayer de faire ça, et ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais d'essayer d'être le plus profondément possible dans le moment et de faire ce qui doit être fait musicalement à l'instant T, tout en sachant que ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu de faire et ce n'est pas forcément essayer de suspendre le jugement à l'instant T et de laisser passer ce qui doit se passer. Et en même temps de trouver qu'est-ce qui doit se passer. C'est-à-dire, c'est que comme si à la fois on est à l'intérieur en tant que musicien, et à la fois on est quelque part, j'essaie d'être à la fois à l'extérieur, c'est-à-dire d'écouter, tiens, là cette musique, il y a besoin de ça. Idéalement, trouver quelle est la partie idéale que moi, en tant que saxophoniste, je dois jouer, ou ne pas jouer d'ailleurs, pour que la musique qu'on est en train de faire à trois soit la plus équilibrée possible, la plus forte possible, et le degré d'évidence le plus fort possible. Est-ce que par exemple là je joue, est-ce que là je joue pas, est-ce qu'on continue à improviser, est-ce qu'on s'arrête, et là on a fait telle chose pendant 2 minutes, est-ce qu'on switch et qu'on va dans une direction différente, ou est-ce qu'on reste dans la direction dans laquelle on est.
Ça semble rejoindre un peu ce que, quand on s'était rencontré pour l'album Pogo, vous aviez dit, je vous cite comme on dit, on a souvent peur de laisser de l'espace, on est souvent bavard, un travers que je trouve chez moi comme chez d'autres musiciens.
C'est vrai que c'est une préoccupation que j'ai depuis longtemps, et c'était particulièrement agréable de travailler avec Daniel dans ce sens-là, parce que je trouve qu'une des choses, un des éléments de la musique où il est particulièrement bon, c'est justement de donner une architecture, une forme à une improvisation libre. C'est-à-dire que je pense qu'il est très fort justement pour se mettre à la fois à l'intérieur de la musique et être complètement impliqué et complètement présent, et à la fois avoir une idée d'ensemble de ce que ça donne et être capable de donner une forme à quelque chose dans le moment. Après, sur laisser de l'espace, c'est vrai qu'on a la tentation, je pense que la plupart des musiciens ont la tentation de jouer en permanence, et des fois il faut savoir quand jouer et quoi jouer, mais aussi quand ne pas jouer. Dans un contexte d'improvisation libre comme celui du trio, je pense aussi que toutes ces petites décisions qu'on prend sur le moment, elles sont magnifiées parce qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure à laquelle se rattacher. On est en train vraiment de créer quelque chose dans le moment et en même temps de donner forme à quelque chose dans le moment. Donc idéalement, il y a quand même si on est en train d'improviser, il y a quand même un début, un milieu, une fin, il y a une architecture. Il faut que ça fasse sens à l'arrivée, même s'il n'y a pas une forme extrêmement claire. Donc, d'une certaine manière, une improvisation libre, c'est toutes ces décisions, elles prennent encore plus d'importance que s'il y avait une forme, parce qu'il n'y a rien, on se rattache à rien. On n'est pas en train de faire, tiens là on va faire une grille, après on va faire une autre grille, après ça va être le solo de contrebasse. Tout ça dégage. Du coup, il reste 3 musiciens qui se parlent dans le moment. Et ça met l'accent sur la communication directe, sur l'interaction. Et d'une certaine manière, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, ou bien ça marche, et je pense que la musique se met en place avec un degré d'évidence assez élevé, ou bien ça marche clairement pas, et là, en réécoutant la prise, on se dit, tiens, bon, ça c'est moins bien.
Est-ce que c'est dans ce genre de contexte, dans ce genre de format-là, que l'idée de gérer le silence, le temps, etc., le silence comme dans la musique, et prendre le temps justement de ne pas savoir un peu le côté « less is more », comme disent les Américains, les purs, est le plus facile ou difficile à gérer, justement
quand on prépare moins. Les deux, parce que des fois, je pense que le degré d'évidence des décisions est plus élevé. Par exemple, il y a des moments où vraiment en studio, je me suis dit, peut-être encore plus que dans d'autres contextes, tiens, là, il faut jouer ça, et enfin, même C'était pas une décision intellectuelle, c'était vraiment instinctivement là et c'est ça qu'il faut faire. Ou là, au contraire, je joue pas. Comme y avait rien à quoi se rattacher, je pense que les décisions, d'une certaine manière, étaient plus importantes et les erreurs aussi pouvaient être plus importantes. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moments où j'ai fait des choix et en réécoutant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le bon choix. Et à l'inverse, il y a des moments où j'ai joué des choses, où Daniel a joué des choses, où Ben a joué des choses, et en réécoutant, je me dis, tiens, là, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Du coup, je pense que la gestion du silence et la gestion des notes et quand jouer et quoi jouer, tout prend quelque part plus d'importance. Parce qu'on est en train de créer la structure de manière instantanée. Et c'est comme si on écrivait la forme du morceau au moment où on l'a fait. Alors que la forme est généralement un élément donné qu'on a et auquel on peut se rattacher et avec lequel on peut jouer. Et qui est solide. Là, on crée une forme dont on essaie qu'elle fasse sens à l'arrivée. Je sais pas si c'est très clair,
Si, si. Sur cette, je sais pas si fascination, peut-être pas le bon mot, mais sur cet intérêt, on va dire, permanent pour le passo-doble entre sax et guitare, ça vient d'où? Ça s'est fait progressivement? C'est quoi? C'est Scofield Lovano qui vous ont fait voir la Vierge? Il y a eu
Bah,
plusieurs
un peu,
choses?
c'est-à-dire que déjà, s'il y a une influence guitare-saxophone pour moi qui a été déterminante à un moment dans ma vie, c'est effectivement Scofield Lovano. Je les ai entendus quand j'avais 17-18 ans en concert, et c'est quand même ça qui m'a donné envie de jouer avec un guitariste. Après, je pense pas que cette influence soit aussi prépondérante dans la musique que j'écris ou que je joue aujourd'hui, mais elle a été déterminante dans mon développement, ça c'est sûr. Et c'est après que j'ai découvert d'autres grandes collaborations, guitare sax par exemple, Sonny Rollins, Jim
Jim
Hall,
Hall, ouais.
Lovano, Frizzell, bon. Donc, tout ça est venu après, mais c'est vrai que Lovano Scofield, ça a été déterminant dans le quartet qu'ils avaient avec Bill Stewart et Mark Johnson, et après Denny Cerwin. Après, c'est vrai que je me suis toujours senti particulièrement à l'aise avec les guitaristes, parce que les guitaristes tendent à jouer moins que les pianistes. Les guitaristes tendent à avoir une palette sonore plus large, notamment quelqu'un comme Ben, qui par exemple peut jouer avec distorsion, sans distorsion, avec tout un tas d'effets, mais d'effets qui font vraiment partie de sa voix. Ça donne une palette sonore très large qui est particulièrement mise en valeur, je pense, dans ce disque et dans un contexte d'improvisation libre. Et aussi, il y a un son, les sons de la guitare et du saxophone ténor, particulièrement mezzo-soprano aussi, il y a une alchimie là. Qui me touche particulièrement depuis longtemps. Donc c'est vrai que la guitare est un instrument important pour moi, et particulièrement Ben, parce que je m'entends vraiment bien avec lui. À la fois, il est très ouvert, il est complètement à l'écoute, et à la fois, il a une personnalité très forte. Tout comme Daniel d'ailleurs. Ce que je trouve particulièrement excitant chez des musiciens, c'est à la fois une personnalité très forte et un point de vue arrêté sur comment jouer. C'est-à-dire que par exemple, bon, Daniel a un style de batterie, Ben a un style de guitare, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent faire. Et à la fois, ils sont extrêmement ouverts et ils sont capables de modifier ce qu'ils font, et ils sont aussi capables d'adapter ce qu'ils font au moment, et ils veulent faire de la bonne musique dans le moment. Donc il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de tiens, moi je vais faire ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des gens qui ont un style, qui ont une personnalité musicale affirmée, mais qui en même temps sont complètement ouverts pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible à trois. Et bon, ça définit Daniel, Ben, moi, j'espère. Et généralement, c'est une des qualités principales que je recherche. Je suis attiré vers des gens qui ont cette qualité-là, quel que soit le style de musique que je joue. C'est-à-dire que je joue un disque d'improvisation libre comme celui-ci, ou que je joue un disque de composition en quartet, ou que je joue un disque en trio comme celui que j'ai fait avec Ben Street et Rodney Green, où on joue des standards. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus une manière d'approcher la musique qui unit ces trois projets qui, en apparence, peuvent paraître très différents. En fait, pour moi, il y a un point de vue commun sur comment on approche la musique, et c'est ça qui donne l'unité à ces projets, et c'est ça que je recherche en musique de manière générale.
Thank you.
Sur la complicité, sur les partenaires, là en plus ce dernier album est un bon exemple, parce qu'on a d'un côté, j'allais dire, on a Ben Monder avec qui vous travaillez depuis un certain temps, donc avec qui vous avez pu développer effectivement quelque chose, et à côté quelque chose de frais avec Daniel oui. Humer, avec lequel, donc, est-ce que c'est aussi important pour vous justement de développer sur la durée des collaborations, et à côté en même temps de développer des choses complètement fraîches?
Oui. Oui, alors en même temps, collaboration de longue date n'exclut pas fraîcheur.
Oui, bien sûr.
Du coup, c'est vrai que même si je connais Ben depuis très longtemps, ce qui m'intéresse chez lui, c'est justement aussi la capacité de trouver des choses fraîches et de se renouveler. Du coup, je pense qu'il y a intérêt particulier à essayer de trouver des choses fraîches avec quelqu'un avec lequel on joue depuis longtemps, avec lequel on a confiance. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens avec lesquels j'aimerais jouer. Daniel fait évidemment partie de cela, mais j'envisage ce groupe avec Ben et Daniel comme le début de quelque chose que je vais essayer de faire avancer. Et j'aimerais bien faire des concerts avec ce groupe, j'aimerais bien développer, j'aimerais bien que ce disque nous serve de point de départ et non et soit pas uniquement
one shot.
Ouais, soit pas uniquement quelque chose qu'on fait une fois. D'ailleurs, on a joué au festival de Junas après l'enregistrement du disque, on a fait le disque en mai dernier. On a joué à Junas en juillet et là je travaille à trouver d'autres concerts avec ce groupe et j'aimerais bien qu'on continue.
Alors justement, projet, quels sont les envies futures pour 2011?
Bah, pour 2011, faire tourner ce projet, déjà, avec Ben et Daniel. Ça, je pense que c'est la chose principale. Après, j'ai d'autres projets discographiques éventuels, mais en fait, le truc, c'est que j'en ai plusieurs. Du coup, j'aimerais bien refaire un disque avec le Quartet, donc avec Ben Monder, Joe Martin, Ted Poor. On a rejoué à New York juste avant que je vienne à Paris. On a rejoué il y a deux jours. Et ça m'a donné envie de rejouer, d'autant plus que j'ai déjà un répertoire qui est écrit, en fait, que j'ai écrit pour la tournée qu'on a faite il y a quelques mois, et donc j'ai 8 morceaux qui n'ont pas été enregistrés, et que j'ai écrit spécialement pour... que j'ai écrit quand même avec le Quartet en tête. Donc j'ai de quoi faire un disque demain avec ce groupe-là, et j'aimerais bien le faire. Après, j'aimerais bien travailler avec un pianiste qui s'appelle Danny Grissette, qui est le pianiste actuel de Tom Harrell, et avec lequel on a fait plusieurs concerts en duo. Et donc ça, ce serait un projet en duo. On n'est pas prêt à entrer en studio pour l'instant, mais on a fait 2 concerts, on va en refaire, on va jouer à Smalls en avril. Et c'est un projet qui est en développement, où on joue un peu sa musique, un peu la mienne et un peu des standards. Et ça, ce serait un truc différent, parce que ce serait un projet de duo avec un pianiste, et j'adore comment il joue. Donc il y a ça, et aussi il y a un pianiste belge qui enregistre d'ailleurs pour Beat Jazz, Joseph Dumoulin, et j'aimerais bien travailler avec lui, on en a parlé, et là ce serait un projet plus électrique, je sais pas si ça va se faire ou pas, mais on est en contact et il est possible que ça se fasse aussi. Donc ça serait 3 projets très différents, discographiques éventuels, dont je pense au moins l'un va se réaliser en 2011, mais... on va voir un petit peu comment les choses se passent. Après, au niveau des concerts, bah, la priorité pour moi en France, ce sera le projet avec Ben et Daniel, essayer de trouver des concerts. Mais en même temps, je travaille aussi sur continuer mon projet en trio avec Ben Street et Rodney Green, donc qui est un projet axé sur les standards, et le Quartet. C'est-à-dire que je vois ça comme 3 projets qui ont été enregistrés sur disque et qui sont encore qui sont actifs, avec lesquels j'aimerais bien continuer à travailler de manière régulière, dans la durée.
Est-ce qu'au niveau de personnel, vous avez sur votre emploi du temps, tout ça, vous avez des, des phases de travail, vous êtes une sorte de gros glouton, vous avez besoin d'avoir tous ces projets, de faire des concerts régulièrement, ou... Comment ça dépend des
C'est important pour moi de jouer régulièrement, ça c'est sûr. Quels que soient les projets, il est important pour moi d'avoir des concerts réguliers parce que ça fait avancer, parce que ça donne des buts. Par exemple, j'ai eu une tournée en mai avec le Quartet et je savais aussi qu'il y avait l'enregistrement avec Ben et Daniel. Du coup, bah, ça m'a donné une deadline pour écrire de la musique. J'ai écrit de la musique pour le disque, j'ai aussi écrit de la musique pour la tournée. Et c'est vrai que de plus en plus, par exemple en termes d'écriture, j'ai besoin d'avoir une raison particulière pour écrire. C'est-à-dire, j'écris pas forcément tous les jours pour moi. Ça m'arrive de le faire, mais si je sais que j'ai une tournée dans 3 mois, là, tout d'un coup, je vais me dire, bon, ok, je vais écrire un répertoire. Donc ça peut m'aider. En termes de mon travail musical en tant que saxophoniste, bah, je travaille régulièrement chez moi. Il y a des choses précises sur lesquelles je travaille, mais travailler chez soi et jouer en public sont 2 choses complètement différentes. Et jouer en public, c'est aussi quand même plus. Ça donne plus la mesure de ce qu'on est capable de faire, et ça donne des idées, et il y a le public, et il y a une intensité plus grande dans tout ce qu'on fait. Et pour moi, c'est absolument nécessaire pour mon travail de musicien. Donc j'ai besoin de jouer en public. Après, les projets, ça dépend un peu des périodes, ça dépend aussi un peu de ce que j'arrive à avoir. Par exemple, peut-être à tel moment, il est plus facile pour moi de faire tourner tel projet que tel autre, ou alors tout d'un coup, il y a un festival qui m'appelle et qui est intéressé par un groupe que je fais en particulier et peut-être pas par un autre. Du coup, là, ce sont un peu les circonstances qui décident. Mais c'est pour ça aussi que moi, je vois mes trois projets enregistrés comme trois projets vivants qui sont d'actualité et que je peux et avec lesquels je peux travailler en gros n'importe quand.
Est-ce que ça veut dire que ce flot de projets, de travail différents, fait que vous avez jamais de doute ou jamais d'envie d'aller sous le The Bridge comme Sonny Rollins chercher
Non,
une
au
pièce quelque part
contraire,
pour le
c'est-à-dire que, au contraire, comme ces trois projets sont différents, je pense que justement passer de l'un à l'autre n'est pas particulièrement facile. Et en passant de l'un à l'autre, des fois j'ai des doutes. C'est-à-dire, je me dis, bon, en fait, est-ce que je suis. Moi, j'ai l'impression d'être très connecté avec chacun de ces projets. Mais en même temps, ce sont des projets très différents. Un projet, en gros, d'improvisation libre avec Ben et Daniel. Un projet de quartet avec de la musique que j'écris, qui est un peu influencé par la pop, qui est un peu binaire, on va dire. Mais où en même temps, il y a un aspect chanson et un certain degré de sophistication, mais il y a un aspect de direct dans cette musique-là et un projet de standard. Et en fait, bon, l'aspect direct, c'est quelque chose que je revendique et que je cherche dans tout ce que je fais. Mais c'est vrai que ce sont des projets qui sont stylistiquement très différents. Donc, ce que j'essaie de faire en tant que saxophoniste, c'est avoir une voix qui soit la mienne et qui soit présente dans chacun de ces projets et qui en même temps fasse sens au sein de chacun de ces projets. C'est-à-dire que ce ne soit pas une espèce de truc artificiel où je me dis, tiens, là je vais faire un truc standard, là je vais faire un truc de composition, mais où en fait ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que j'aimerais, et ça fait depuis longtemps que c'est un but pour moi, un de mes buts musicaux, c'est avoir une voix qui soit à la fois personnelle, impliquée, cohérente, un langage qui soit le mien, un son qui soit le mien, et être capable de jouer dans des situations différentes et d'être impliqué dans des situations différentes. Et c'est pas un but intellectuel ou une espèce d'épreuve que je m'impose à moi-même, c'est que je suis en tant que musicien attiré et je me sens en tant que musicien connecté à des choses qui sont assez différentes dans le jazz. C'est-à-dire, je viens du jazz, j'ai eu envie de faire du jazz à cause du bebop, à cause de Miles, de Coltrane, de Rollins, de Dexter, de Getz. Donc je me sens très connecté à ce qu'on va appeler l'histoire du jazz. Je me sens connecté au fait de jouer des standards. Je me sens connecté au swing, à la tradition du saxophone ténor. Et à la fois, je me sens connecté, par exemple, à l'improvisation libre. Je me sens connecté à quand j'écris des morceaux, par exemple, malgré mon attachement au swing et à la tradition, ce sont généralement pas des morceaux qui sont ternaires ou qui swingent particulièrement. Donc, je suis aussi quelqu'un qui est né en 1973, qui écoute beaucoup de musiques différentes et je suis influencé par beaucoup de musiques différentes. Du coup, j'essaye de trouver ma voix avec des intérêts musicaux qui sont divers et variés. Et j'essaye de faire que toutes ces choses-là ensemble fassent sens. Et c'est pas évident parce qu'il y a, par exemple, pas mal des musiciens avec lesquels je travaille ont des registres ou des intérêts plutôt plus limités que les miens. Par exemple, Rodney Green, le batteur avec lequel je joue dans mon trio, c'est clairement quelqu'un qui est dans la tradition du jazz au sens large, mais bon, qui se voit vraiment dans une certaine tradition de batterie, dans une certaine tradition du jazz, etc. Il aime un spectre de choses moins large que moi, par exemple. Mais ça ne nous empêche pas de collaborer ensemble, de parler de musique ensemble et d'être très proches. Mais moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un spectre d'intérêts extrêmement large et j'essaie de conjuguer ces intérêts les uns avec les autres et ça me fait avancer. Mais pour en revenir à la question du doute, des fois, je me pose la question. Je me dis, tiens, est-ce que je suis pas plus impliqué là-dedans que dans tel projet que dans tel autre projet? Est-ce que ça fait vraiment sens d'essayer de jongler entre des projets très différents musicalement, etc. Moi, personnellement, je pense que oui, et je pense que ça me fait avancer, et je pense que ça m'aide à trouver ma voie. Mais bon, chacun peut avoir son avis, chacun trouve sa propre réponse à ce genre de questions.
Quel mélomane vous êtes? Vous dites, j'écoute des choses vraiment très très diverses, même éloignées de ce que je fais. On parlait tout à l'heure, on évoquait la crise du disque, donc des changements de consommation de musique. Est-ce que vous achetez des disques beaucoup, vous téléchargez, vous achetez du vinyle, des disques d'occasion, vous allez au concert?
Ouais, comment je vais beaucoup au concert.
Vous écoutez la musique des autres?
Je vais beaucoup au concert.
Est-ce que vous écoutez déjà beaucoup de musique? Est-ce que chez vous, dans votre voiture, quand vous êtes dans un avion, vous avez un casque tout de suite sur la tête avec un iPod? Comment vous...
Déjà, j'ai pas de voiture, donc j'ai pas de musique en voiture.
Avant le métro, quand même.
Mais oui, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique chez moi. Je préfère écouter de la musique sur une chaîne chez moi tranquillement qu'avec un casque, mais j'ai aussi un iPod, un casque, et donc généralement, oui, si je suis dans un aéroport ou en avion ou dans le train, il y a généralement un moment où j'écoute de la musique. Je sors beaucoup, donc je vais beaucoup écouter de musique live. Et j'achète pas mal de disques. Je télécharge peu. Simplement parce que je préfère avoir l'objet discographique. J'aime bien avoir les CD, plus encore les vinyles. J'écoute des vinyles, j'écoute aussi des CD. Et ça m'arrive de télécharger, mais quand je télécharge, c'est plutôt pour une chanson précise. Par exemple, je veux apprendre un standard et je cherche plusieurs versions. Donc, boum, je télécharge trois versions d'un standard. Et comme ça me donne trois points de vue différents sur le standard et je l'apprends comme ça.
Et ces choses que vous achetez ou téléchargez, vous achetez en CD ou en vinyle, c'est du jazz, du rock, de la world,
Beaucoup du jazz, pas mal de classiques, des fois du rock, des fois de la world, mais principalement jazz et classique. Mais après, des fois aussi pop rock et des fois autre chose, quoi.
Des concerts, pareil, vous allez essentiellement à des concerts
pareil,
de jazz.
Ouais. Beaucoup de jazz, Du classique, mais aussi des fois autre chose. Donc ça dépend un peu. Si on me dit que s'il y a quelqu'un en qui j'ai confiance qui me dit va écouter ça, c'est très bien, généralement j'y vais, quoi. Ou généralement j'écoute quel que soit le style du truc.
Et alors les derniers concerts et les derniers disques qui vous ont renversé?
Alors là, j'ai acheté pas mal de disques. Alors il se trouve que j'ai acheté pas mal de disques qui sont pas forcément très récents. Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? J'ai écouté un disque de Ben Webster avec des cordes qui s'appelle Ben Webster with Strings. Ouais. Et j'ai écouté pas mal de Ben Webster récemment. Dans un genre complètement différent, j'ai acheté un coffret de Ligeti qui s'appelle The Ligeti Project. Et qui est en fait, ce sont 6 disques rassemblés dans un coffret. Et il y a un coffret sur Sony et il y a un coffret sur, je crois, Telarc ou Teldec. Là, c'est celui qui est Ligeti Project, c'est celui qui est sur Teldec ou Telarc, Teldec, je crois. Et ce sont globalement les œuvres symphoniques. Donc ça, j'ai acheté ça récemment et pour l'instant, j'ai écouté le disque 1, le disque 2, il m'en reste 4 et bon, c'est fabuleux, quoi. Donc ça, je suis un petit peu plongé dedans.
Et en musique live?
Musique live, ça c'était à New York. J'ai écouté récemment Mark Turner, Tony Malaby, Bill Frisell et Paul Mossian. Donc en fait, ça devait être le trio Lovano, Frisell, Mossian. Sauf que Lovano a annulé et du coup, ils ont pris à la fois Mark Turner et Tony Malaby. Et du coup, c'était intéressant de voir deux musiciens saxophonistes que j'apprécie beaucoup et qui sont très différents l'un de l'autre, et c'était intéressant de les voir jouer ensemble sur la même scène. C'était aussi intéressant de les voir jouer alors que j'ai l'habitude d'entendre Frisell et Mossian avec Lovano. Du coup, c'était doublement intéressant pour moi d'écouter ça. Donc ça, c'était au Village Vanguard. J'ai aussi récemment écouté Frank West. Donc il y a un saxophoniste qui va avoir 89 ans, qui a longtemps joué dans l'orchestre de Basie, et qui est vraiment un lien avec la tradition du jazz. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que Ben Webster, Lester Young, Coleman Hawkins, Don Byas, les gens vraiment de la première génération, et qui est un lien avec l'histoire du saxophone, qui est l'histoire vivante du saxophone. Donc je l'ai écouté jouer récemment, et il se trouve aussi qu'on a un ami en commun, et du coup ce qui a été assez excitant pour moi, c'est je l'ai aussi rencontré récemment, j'ai joué avec lui chez lui 2-3 fois, et de la même manière que, dans un genre complètement différent, mais de la même manière que Daniel Humer, qui lui-même a joué avec les meilleurs musiciens de jazz et qui a 71 ans, 72 ans, chaque fois que j'ai, pour quelqu'un de ma génération, me confronter avec des gens de ce calibre-là et qui ont cette expérience-là, c'est toujours l'occasion pour moi d'apprendre beaucoup de choses. Donc que ce soit les voir jouer sur scène ou que ce soit jouer avec eux, ce sont des expériences particulièrement précieuses. Et là, il se trouve que j'ai vu Frank West la semaine dernière, juste avant de venir à Paris.
Est-ce que c'est un peu une manière pour vous, un peu comme dans la Rose Pourpre du Caire de Woody Allen ou le caméraman de Buster Keaton, de rentrer dans une certaine tradition, un peu dans le grand livre, j'allais dire, dehors du jazz, avoir l'impression comme ça d'être dans le film, même si évidemment vous l'êtes, mais
de toucher comme ça
des gens d'une certaine génération.
Oui, parce que les gens de cette génération-là, donc on va dire au sens large, hein, parce que déjà Daniel et Franck, ce ne sont pas la même génération, mais ce sont des gens qui quand même connaissent le jazz d'une manière plus intime. Et qui ont plus d'expérience que moi, simplement parce qu'ils ont 30, 40, 50 ans de plus, quoi. Et que ils sont... Pour moi, le jazz est quelque chose que j'apprends avec les gens qui ont mon âge, en écoutant des disques, les disques des grands, et que j'ai aussi été à l'école à Berkeley pendant 2 ans, je pense pas que c'était une chose particulièrement déterminante pour moi, mais je fais partie d'une génération où on n'est clairement pas la première génération, ni la deuxième, ni même la troisième. Du coup, quand on a l'occasion de côtoyer des gens de la première, deuxième, troisième génération du jazz, c'est une expérience globalement qui n'a pas de prix, parce que ce sont des gens qui ont une connexion plus directe avec cette musique que les gens de ma génération. Et je l'entends ça, par exemple, dans... dans leur jeu. C'est-à-dire, j'entends une certaine souplesse, j'entends particulièrement chez les batteurs, il y a une manière de jouer de la batterie. Si vous écoutez Roy Haynes, et si vous écoutez Elvin Jones, et si vous écoutez, je sais pas, genre Tutti Hiss, qui on va dire Roy Haynes, Tutti Hiss, qui sont des gens qui jouent encore, qui sont vivants. Et bon, Elvin, il est mort, mais je l'ai entendu jouer quand même pas mal de fois. Si vous mettez des gens comme ça, et même un très bon batteur aujourd'hui de ma génération, au niveau du feel, c'est pas la même chose, quoi. Du coup, je pense que il est important pour un musicien de ma génération d'essayer de côtoyer le plus possible les gens qui font partie de l'histoire du jazz, parce que c'est comme ça qu'on acquiert, je pense, une connaissance plus profonde de cette musique.
Et cette musique, donc on peut l'écouter sur donc I Will Follow You, une partie de cette musique, on pourrait dire. Je rappelle, donc, est sortie à la rentrée sur Beat Jazz avec Daniel Humer et Ben Monder. Merci Jérôme Sabag.
Merci Marc.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.